Bonjour à tous si vous nous rejoignez maintenant et merci au public qui est avec nous en direct du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, la Grande Table, en direct effectivement de Belgique aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur place, vous pouvez encore venir ici, les débats se poursuivent jusqu'à 19h. On va parler de l'Europe, de cette équation multiple qu'est l'Europe, géopolitique, mythologie, réinvention de la politique, migrants, Brexit, traiter de la question européenne nécessite de multiplier les approches. Nous avons, nous, choisi de nous intéresser à ce qui nous rapproche l'Europe. A-t-on encore des valeurs en commun? Les dirigeants de l'Union européenne sont actuellement, vous le savez, réunis à Bruxelles autour de plusieurs questions. Les migrants, l'accord de libre-échange, la Russie, le Brexit. Le meilleur moyen de démontrer la pertinence du projet européen est d'obtenir des résultats sur des questions concrètes qui sont les plus importantes pour nos concitoyens, a indiqué le président Tusk. Mais qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait encore projet européen? On va en parler avec Mathieu Croissando, qui est à mes côtés, directeur de la rédaction de l'Obs, à l'initiative de ces journées de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Alors vous avez jusqu'ici modéré des débats. Ici, vous allez nous aider à le faire s'envoler, ce débat, avec nos invités, l'écrivain et académicien belge Jacques de Decker. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et avec Marcus Gabriel. Bonjour.
Bonjour.
Philosophe allemand, professeur d'épistémologie et de philosophie contemporaine à l'université de Bonn, auteur de Pourquoi le monde n'existe pas, un ouvrage paru il y a 2 ans chez Jean-Claude Lattès. Connaissance du monde et scepticisme sont deux sujets qui sont vraiment au cœur de vos recherches. L'Europe privée de signes forts depuis sa création, Jacques de Decker, l'Europe qui se cherche un idéal, l'Europe qui se cherche des raisons d'exister, un espoir pour continuer, une incarnation, tout ça c'est vrai, mais autour de quelles valeurs peut-on continuer à construire l'Europe?
Les valeurs, on va en parler beaucoup, je crois,
jusqu'à 13h30.
Dans cette séance. La raison pour laquelle on n'en parle pas tellement, je crois, c'est lié prioritairement à l'origine même de l'Europe, c'est-à-dire aux priorités de la constitution de l'Europe, dans laquelle on a banni la culture très très longtemps. Et puis on a essayé de corriger le tir avec un premier commissaire à l'Europe pour la culture, qui était Ripa de Meana, mais qui était vraiment le fondateur de cette chose-là. Et puis alors les problèmes se sont corsés au moment du large élargissement. Parce que là, on a interrogé, j'étais à l'époque journaliste au soir, on interrogeait les nouveaux pays, et ils avaient des attitudes par rapport à une politique culturelle qui étaient très divergentes, mais la plupart du temps très anxieuses. C'est-à-dire, ils avaient l'impression qu'ils allaient le faire manger par l'Europe. Alors, on me dit, autour de quel contenu? Alors, évidemment, le contenu, c'est la première destination de l'Europe au moment où on y pense et on la constitue tant bien que mal, c'est la paix. C'est-à-dire, c'est l'entente, c'est le plus jamais ça. Et ça suppose un très grand effort, qui est d'ailleurs de nature pas seulement politique, mais aussi philosophique. Même si ils sont philosophes sans le savoir, je sais pas moi, Churchill, des gens comme ça, bon, ils agissent au nom d'une valeur. Et cette valeur, elle est vitale, puisqu'on promet aux gens qu'ils vont plus s'écharper. Ça, c'est la première chose. Après ça, c'est la question du contenu, comme dirait mon voisin, épistémologique de ces valeurs-là.
Alors, on va peut-être lui laisser la parole,
voilà.
Justement. Mais pour vous, la paix est une valeur ou un projet?
Oui.
C'est une valeur.
C'est évidemment un projet, mais ça se fonde quand même sur une compréhension de l'autre, sur la possibilité de la pacification, sur le sens de la synthèse dans les contradictions. Ce sont des valeurs, oui.
Marcus Gabriel, comment vous définissez ces valeurs qu'on aurait en commun?
Moi, je pense que, par définition, une valeur, c'est quelque chose qu'on a en commun. Il n'y a pas de valeur locale ou régionale. Les valeurs, en tant que telles, sont des entités globale, universelle, qui définit l'humanité en tant que telle. C'est-à-dire, les valeurs sont par définition ce que l'être humain a en commun en tant que tel. Ça, c'est une valeur. Donc la question, par exemple, préférer la paix à la guerre, c'est une valeur parce que ça définit l'être humain. Par définition, le concept de la guerre, c'est le concept de quelque chose qui ne doit pas exister.
Et dans ces valeurs universelles dont vous venez de nous donner un aperçu, est-ce qu'il y a des valeurs spécifiquement européennes ou des valeurs sur lesquelles l'Europe s'est spécifiquement construite, à part la paix?
Non, je ne pense pas. Je pense que la valeur centrale, disons la valeur européenne, c'est l'idée qu'il n'y a pas des valeurs européennes. Si une valeur européenne serait une non-valeur, une valeur pour les Européens. Donc, si quelque chose est une valeur, par exemple une valeur pour les Européens, en tant que tel, c'est déjà une valeur pour tout le monde.
Là, en quelques minutes, vous venez de scier la branche sur laquelle on était assis depuis le début de l'émission. Je ne sais pas comment on va tenir jusqu'à 13h30. Alors, je vais reformuler. Sur quelles valeurs universelles l'Europe peut-elle continuer à se construire? Parce que des valeurs autour desquelles l'Europe s'est construite jusqu'ici, depuis le traité de Rome notamment, les textes communautaires nous disent sur quelles valeurs l'Union européenne s'est fondée. Pas si nous les partageons encore. Si on pense à l'article 1 bis du traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, 2 ans après sa signature, il est écrit « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ce sont ces valeurs communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. » C'est un peu long, mais il y a aussi un article 2 qui évoque très directement la paix. Qui les porte aujourd'hui, ces valeurs ? Quelles sont les institutions qui en sont garantes, Mathieu Croissando?
Ce qui est surprenant, c'est que dans toutes ces valeurs qui sont décrites dans les textes fondateurs, il y en a une qui est essentielle, qui est la démocratie, et qui est quand même ce bien commun. Alors, est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est un principe? C'est quand même ce qui unit l'Europe depuis le début, et on a l'impression, à travers le temps, que la construction européenne s'est faite sur une démocratie défaillante, adémocratique en tout cas pour ses opposants, puisqu'aujourd'hui, les citoyens ne se sentent pas représentés ou mal représentés. Comment vous expliquez ça, que cette démocratie qui est vraiment le berceau de l'Europe ait réussi à ce point à faillir, en tout cas, dans l'application?
Marcus Gabriel, Jacques de Decker. Marcus Gabriel.
Alors, la démocratie en tant que valeur diffère radicalement de la démocratie en tant qu'administration. Et ce que nous observons ici, surtout à Bruxelles, c'est le symbole de cette différence. Donc c'est le lieu d'une différence, c'est-à-dire la différence entre l'administration, c'est-à-dire la réalisation et la continuation des institutions, et la valeur de la démocratie. Donc il y aura toujours une béance qui sépare la démocratie en tant que valeur universelle d'un lieu comme Bruxelles, Paris, Berlin ou je ne sais pas. Donc ça, c'est constitutif, je pense, de la démocratie en tant que valeur, qu'on ne peut pas réaliser la démocratie.
Donc vous pensez que la crise démocratique, elle est consubstantielle au projet européen, elle ne se résoudra jamais? On ne peut pas améliorer par le jeu des institutions, le pouvoir du Parlement, on ne peut pas améliorer un peu le jeu démocratique en Europe?
On peut toujours améliorer les institutions, parce que les institutions, par exemple, nous avons maintenant tout le discours à propos du terrorisme, la nouvelle droite, etc., donc tous les scepticismes à propos de la démocratie, tout cela. Ça sont des problèmes réels pour les institutions, les citoyens européens, etc. Mais je pense que la suprême valeur de la démocratie, c'est ça, que la démocratie peut jamais exister en tant que réalisée. C'est un projet. Et qu'est-ce que c'est une crise? Une crise, c'est l'état d'une critique. Et qu'est-ce que c'est la critique? La critique, c'est un mot assez important pour nous, philosophes allemands. Qu'est-ce que c'est une critique? Une critique de la raison pure, une critique de la raison pratique. C'est même l'attitude nécessaire pour accepter la différence. Critiquer, c'est-à-dire distinguer.
Mais vous dites le terrorisme, c'est quand même plus qu'un discours, c'est aussi une réalité. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on sent aussi une Europe qui est en train de se construire, Jacques de Decker, sur des valeurs sécuritaires, des valeurs de protection qu'on peut interpréter comme telles, en tout cas plus des valeurs d'ouverture, comme était l'idée de départ, celle du projet européen, mais des valeurs de fermeture. Et on peut aussi penser à la crise des migrants sur ce point-là.
Oui, mais je crois que là, on brûle les étapes. Parce que effectivement, ce qui se passe actuellement met l'Europe sous une pression qu'elle n'a jamais connue à ce point-là, sur différents plans que vous venez d'élaborer. Mais si on parle de la démocratie, je trouve que l'Europe, elle est très conforme à la démocratie athénienne, c'est-à-dire particulièrement élitaire et censitaire. Donc nous sommes dans le droit fil du modèle absolu de la démocratie classique. Et comment se fait-il que la délégation ne soit pas mieux portée? C'est pas une question de réflexion ou de projet, c'est une question d'usage. Pendant combien de temps tous nos pays en sont les exemples, à commencer par la Belgique ou la France, non, peut-être plus la France que la Belgique, parce que la Belgique s'est sentie plus concernée par l'Europe que la France, pour des raisons géographiques et de disponibilité d'individus aussi. Donc on a eu des leaders au niveau européen assez brillants au fil du temps. En France, pendant longtemps, comme dans d'autres pays, on déléguait à Paris, à Bruxelles, des gens dont on voulait plus à Paris. Il y a même des exemples historiques de ça qui ont donné le contraire de ce qui était entendu. Je pense évidemment à Jacques Delors. Et à partir de là, si vous n'avez pas la bonne distribution dans une pièce, vous n'avez pas une bonne pièce. C'est-à-dire, il n'y a pas une analyse qualitative suffisante de ce que devait être le portrait robot d'un bon parlementaire. Le problème se pose moins dans les techniciens et les fonctionnaires, mais d'un bon parlementaire européen. Multilinguisme élémentaire, formation de sciences politiques réelles. Or, il y a quand même des tas de gens qui font de fabuleuses carrières politiques sans avoir jamais étudié la politique. Hein. Bon. Et tous ces manquements-là, dont on n'a pas vu la portée grave sur le plan, à la limite, conceptuel par la suite, ont fait qu'on s'est retrouvé dans un bourbier et que quand le danger est réel, comme c'est le cas maintenant, ça manque de talent.
Et ça manque d'idées, d'après vous, Jacques de Decker. Marcus Gabriel, est-ce que pour vous, quelque part aussi, la technocratie, la bureaucratie, les hommes, en fait, finalement, et leur manière de travailler, se sont substitués à ces valeurs, aux valeurs éthiques, morales, culturelles, qui avaient donné cette impulsion au projet européen?
Je pense que nous savons tous que le projet européen, c'est un projet, comme la démocratie, comme chaque valeur, imaginaire. C'est-à-dire, il y a des légendes à propos de l'Europe. On pourrait même affirmer que...
Des légendes ou des mythologies?
Oui, les deux. Je pense que nous vivons, pour citer un bel titre d'une série de télévision, nous vivons dans le bureau des légendes. Ça, c'est l'Europe. C'est une théorie de l'Europe, le bureau des légendes. Et donc, il faut même que nous commençons à entendre mieux et analyser mieux la mythologie ou les mythologies de notre temps. Par exemple, nous avons maintenant un problème, évidemment, avec les religions, au pluriel. Ça inclut Scientology, par exemple, en France et en Belgique, etc., et l'islam, aussi le christianisme et tout cela. Donc, comment penser la religion ? Pas à partir de la technologie ou des sciences naturelles. Donc, le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que les sciences naturelles savent tout, et la neurobiologie a découvert que l'homme n'est pas libre, etc. Tout ça, c'est une mythologie dangereuse qui exclut des gens de la sphère publique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, je pense.
C'est vrai que dans l'histoire de l'Europe aussi, il y a eu de grands débats sur le fait d'intégrer ou de ne pas intégrer dans la définition de l'Europe la notion de christianisme, par exemple.
On se souvient des racines judéo-chrétiennes qui figuraient dans le traité constitutionnel européen
exactement,
de 2005.
C'est ça, donc les racines judéo-chrétiennes. C'est vraiment le signe d'une grande prudence et d'une grande sagesse. Je veux dire que ça a été plutôt mal interprété que bien interprété, mais c'était logique. À partir du moment où on tient justement à cette laïcité au sens le plus large du terme, pour résoudre les problèmes d'un collectif de nations dans lesquels les historiques religieux sont tellement différents que ça a donné lieu à des siècles de guerres de religion, il est normal qu'on commence avec ça. Et c'est là, encore une fois, que le gros problème actuel est totalement inédit et souffre d'un manque, une fois de plus, d'anticipation. C'est-à-dire qu'il aurait fallu se rendre compte que le vécu religieux de certains habitants, voire citoyens de l'Europe, à partir d'un certain moment, prend une dimension, j'allais dire, statistique telle qu'il faut l'affronter et dire, voilà, attention, nous séparons l'Église et l'État, c'est une notion fondamentale de notre continent, enfin bon, quasi-continent, et il faut quand même prévenir dans les milieux concernés qui ne partagent pas totalement cette vision, pour des raisons qui les concernent et qui sont très anciennes aussi, mettre cela au point. Ça n'a jamais été fait à temps.
Donc, Marcus Gabriel, face à ces mythologies, ces légendes que vous jugez en partie menaçantes pour ce rassemblement, cette Union européenne, vous prenez quoi? Une forme d'athéisme européen?
Disons que, qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est une invention des polythéistes. Les Grecs étaient polythéistes. Où est notre politisme? Personne ne parle de politisme. Maintenant, il y a...
Vous parlez de politisme ou de polythéisme?
Polythéisme.
Ah, polythéisme.
Polythéisme. Oui. Donc, Europe même, non? L'idée de l'Europe, c'est une figure de la mythologie polythéiste. Donc, oui. Il faut reconsidérer aussi le politisme. Par exemple, la plus grande démocratie de notre temps, c'est l'Inde. Et l'hindouisme, c'est autrefois un politisme. Personne ne parle du politisme, de la présence, par exemple, des hindous en Europe.
Alors, on n'en est pas tout à fait encore au polythéisme, ni au retour du polythéisme, puisqu'au contraire, on a une offensive des religions monothéistes fortes, à commencer par l'islam, mais on voit aussi un réveil chrétien identitaire assez fort. Au-delà de dire on doit être laïc, comment concrètement on peut porter un discours européen et puis concrètement on peut mettre en place des politiques pour mesurer et limiter sans doute ce fait religieux dans l'espace public, hein, j'entends.
Alors, question de Mathieu Croissando à Marcus Gabriel.
La raison, c'est-à-dire l'ensemble des normes dans la sphère publique, c'est en tant que tel athée. Donc la raison ne connaît pas de Dieu, ni plusieurs dieux, pas de Dieu. C'est constitutif de la raison publique.
Oui, mais les citoyens européens ont des confessions, ils ont des fois.
C'est pour ça que nous avons la notion de la liberté des choix de la religion. Mais la religion, c'est toujours une folie. Parce que toutes les religions croient en des choses qui n'existent pas. Donc c'est une manière, c'est une folie qu'on accepte pour des raisons stratégiques. Ça, c'est le résultat, non? Ça, c'était la réaction à la radicalité de la Révolution française. Dans l'époque des Lumières, la réaction européenne était, donc il faut quand même intégrer la folie dans l'État. C'est une question stratégique, je pense. Comment donner un lieu, parce que nous tous souffrons des illusions.
Elle est même peut-être un peu plus large, la question, parce que on se souvient que dans les textes fondateurs, il y a la liberté. Et la liberté religieuse fait partie de ces libertés. Et aujourd'hui, qu'on voit bien qu'on est à un moment européen où la question de l'articulation entre les libertés publiques et les libertés individuelles est complètement remise en cause, que ce soit par le fait religieux, que ce soit par la menace terroriste ou les politiques sécuritaires. Comment on peut repenser ça, Jacques de Decker?
Mais on aurait dû peut-être s'interroger davantage sur deux notions, qui sont d'abord la culture et deuxièmement la formation, c'est-à-dire la pédagogie. Les politiques, une des grandes réussites de l'Europe, il faut la reconnaître, c'est Erasmus. Si Erasmus avait été créé plus tôt, par exemple, ça veut dire si plus tôt encore des
Erasmus
jeunes Anglais...
Erasmus a quoi, 30 ans, hein, à peu près
Je pense. Mais si ça avait été créé plus tôt, donc s'il y avait plus de jeunes Anglais qui, par exemple, auraient pu faire leur tour, comme ils disaient déjà eux-mêmes,
il y aurait eu moins de Brexit.
Hein? Donc, il y a des gens qui disent que si la question du Brexit s'était posée dans 2 ans, vu le résultat des élections, le Brexit ne serait pas passé. Parce que, justement, l'étude donc de l'électorat montre bien qu'en dessous de 40 ans, vous avez un pourcentage qui dépasse, je crois, les 60% anti-Brexit. Donc ça prouve bien qu'un manque de vigilance au début et qui était lié aussi à une sorte de trac devant le culturel. Parce qu'au moment de l'élargissement, par exemple, et qu'on interrogeait tous les pays nouveaux venus, il y en avait qui disaient « Nous, on a très peur, avec notre petite culture, je sais pas moi, lettonne, de se retrouver complètement coincé. » Il y avait ceux qui disaient « Notre conception de la culture, c'est que ça n'a rien à voir avec la politique. » Et c'est en gros un peu l'idée affichée par les Anglais, qui vont le minimum de politique d'État. Il y avait la situation des pays fédéraux comme l'Allemagne ou la Belgique, où on disait « La culture, c'est pas une question nationale, c'est une question fédérale. » Et c'est ce mélange-là qui a fait qu'on n'a pas pu aborder la question. Si on l'avait fait davantage, s'il y avait des vrais grands rassemblements culturel européen, plus ou moins patronné par l'Europe elle-même, ça aurait peut-être modifié la donne.
France Culture, il est 13h15.
France Culture, la grande table, Olivia Jespert.
Et nous sommes ce midi en direct et en public dans le cadre des journées de Bruxelles organisées par l'hebdomadaire L'Obs. Nous sommes ici dans le palais des Beaux-Arts de Bruxelles. On s'interroge ensemble sur ces valeurs que nous avons en commun. En a-t-on encore d'ailleurs des valeurs en commun? C'est la question. Partons peut-être sur un exemple concret, et notamment celui de la crise des migrants. Si vous le voulez bien, Mathieu Croissando à ma droite, qui anime cette table ronde à mes côtés, l'écrivain et académicien belge Jacques de Decker, Weber, premier invité, et Marcus Gabriel, philosophe allemand, qui est également avec nous pour en débattre. Dignité, état de droit, et on pourrait rajouter hospitalité, ce sont des mots qui ont été convoqués, invoqués à plusieurs reprises par la chancelière Angela Merkel dans son discours prononcé à Berlin en août 2015, en pleine crise des réfugiés. La tolérance, la dignité humaine, l'hospitalité pouvaient apparaître auparavant comme des valeurs communes des Européens, de l'Europe. Quelle fracture révèle pour vous la crise des migrants, justement, Marcus Gabriel? Est-ce qu'on a perdu ces valeurs?
Non, pas du tout. Je pense que qu'il faut interroger les présupposés de ce débat-là. Par exemple, on ne parle pas de la crise du tourisme. Donc, quelle est la différence, s'il y en a, entre le tourisme et le terrorisme? Donc, il y a plus de touristes en Europe que réfugiés, par exemple. Mais personne n'en parle. Donc, quelques touristes, parfois, étaient déjà un terroriste. Donc,
peut-être parce qu'ils n'ont pas le même impact pour l'instant, ça c'est sûr.
Non, l'impact est symbolique. Mm-hmm. Par exemple, ici, nous avons, par exemple, il y a beaucoup plus de viols en Allemagne qu'attentats terroristes. Mais personne n'en parle. Donc, le vrai problème, c'est le viol. Et par exemple, je pense que les chiffres sont plus ou moins 30 000 viols et plus en Allemagne chaque année. Ça, c'est une chiffre assez étonnante. Mais on préfère de parler du problème du terrorisme. Donc, d'où vient ce choix, hein? Pourquoi pense-t-on qu'il y a une menace plus menaçante que le menace que nous avons déjà?
Mais parce qu'il y a des attentats de masse quand même, Marcus Gabriel.
Oui, avec 30.
En France, en Belgique.
Oui.
Non, on a changé les rôles, en fait. Marcus Gabriel pose les questions.
Oui,
les chiffres. Mathieu,
non, parlons des chiffres. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est plus menaçant pour pour ma femme, hein? Le viol ou le terrorisme? C'est évidemment le viol. Les trains, même un train ou des animaux sont plus menaçantes.
Je vous perds, Marcus Gabriel, sur la question des valeurs. Alors peut-être est-ce qu'on peut essayer de se remettre sur ce point-là et pas sur des comparaisons qui n'ont pas toujours raison. Jacques de Decker, vous voulez prendre peut-être le relais sur cette question des migrants, de ces valeurs qui ont été invoquées quand même à un moment très clairement par Angela Merkel, avec cette idée aussi qu'elles étaient à l'origine du mythe fondateur de l'Europe. Est-ce qu'on sait perdu? Est-ce qu'on s'est divisé à un moment sur ces valeurs, et notamment celle de l'hospitalité?
Il y a deux éléments nouveaux, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de 20 ou 30 ans d'âge, qui sont déterminants à mes yeux dans la question du terrorisme. C'est d'une part que nous sommes une planète, nous ne sommes même pas un continent. C'est la petite planète, comme s'appelait cette jolie collection du Seuil il y a quelques années. On est une très petite planète. Et deuxièmement, c'est la technologie, c'est-à-dire que tout le monde sur la planète a une connaissance très vaste de tout ce qu'il y a ailleurs sur la planète. C'est-à-dire que l'Europe, présentant comme une Eldorado, n'a jamais été aussi connue du reste du monde que depuis 20 ans, et je dirais même depuis les portables. À partir du moment où vous mettez à la portée de tout le monde un instrument qui vous fait voir ce qui se passe, je sais pas moi, à Hollywood, vous créez un élément de désir, hein, qui peut affoler, puisque le contraste entre l'ailleurs qui est devenu proche et l'expérience réelle de l'ici devient intolérable. Si vous ajoutez à ça des faits de guerre dans lesquels l'Europe a peut-être sa part, mais dont elles ne sont pas les principaux acteurs, dans des pays d'où nous viennent maintenant les migrants, vous devez admettre que ce problème dépasse largement l'Europe. On pourrait même dire que l'Europe...
Quel problème?
Ben, ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, je ne sais pas moi, disons la jungle de Calais. C'est pas un problème. C'est un gigantesque problème qui peut faire école. Donc, le résultat, il est là. Mais lorsqu'on s'interroge sur les raisons de cela, et qu'on se contente de dire c'est les Européens qui ne sont pas assez généreux, et c'est Mme Merkel qui, à un moment d'oubli, a dit une phrase qu'elle n'aurait jamais dû dire, hein, « Wir machen es, wir schaffen es », hein. On est à côté de la
qui veut
vérité.
Dire « nous le faisons ».
On va s'y mettre, elle a dit. Elle s'est corrigée le lendemain déjà, hein. Mais le résultat a été énorme.
Elle a aussi dit « bienvenue hein. ». Willkommen, non?
C'est ça, mais c'est très beau en soi. Cela dit, à partir du moment où ça se concrétise, et où rien n'est mis en place pour l'organiser politiquement, et qu'en plus, il y a là des jeux pervers qui se développent un peu partout, dont notamment un pays candidat à l'admission qui est la Turquie, vous avez ce que nous avons. C'est un phénomène planétaire, c'est pas un phénomène européen. L'Europe est exposée à quelque chose qui, pour une très grande part, lui échappe.
Alors, les phénomènes migratoires sont évidemment un phénomène planétaire, Jacques de Decker. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas tout à fait nouveau. L'ampleur est peut-être nouvelle parce que les moyens de transport, est-ce que vous disiez, c'est les moyens de communication, changent tout. Cela dit, si on parle de cette ampleur, au regard de la population européenne, ça reste infinitésimal. C'est-à-dire qu'on est, je sais plus, en dessous d'un pourcentage très très léger. Comment ça se fait que l'Europe, qui a toujours été traversée, on va pas revenir aux invasions barbares, mais par toutes sortes de populations, comment ça se fait que l'Europe n'est plus capable d'accepter même un seuil infinitésimal de migrants reniant ses valeurs de charité, d'hospitalité, d'asile, qui pourtant la constituent depuis longtemps.
Il n'y a pas une Europe, hein, si on la définit du point de vue social, il y a des couches sociales européennes. Et il y a des gens très à l'abri de tous les inconvénients que pourrait leur apporter un flux migratoire massif, qui peuvent très intellectuellement considérer que c'est quelque chose qu'il faut aborder avec la générosité dont je parlais tout à l'heure. Mais à partir du moment où on a l'impression que son propre quotidien, dans certains cas, dans beaucoup de pays d'Europe, hein, on peut en citer quelques-uns, est menacé, il est normal qu'on n'ait pas totalement la même version de ça. Et c'est là que... Il y a autre chose qu'il faudrait quand même qu'on précise, c'est que l'Europe méditerranéenne, c'est de la dentelle. On passe d'Afrique en Europe, à la limite, sur un canot de sauvetage. C'est pas comme ça qu'on fait la traversée de l'Atlantique.
C'est déjà plus risqué, en plus, quand on voit les drames et le nombre de morts de
Oui, mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui a déclenché le désordre politique internationale, des guerres, je citerai l'Irak pour commencer, par la suite, on a d'autres. On peut produire des effets secondaires, ou même en déclinaison, sur des territoires qui ne sont pas les siens, mais qui sont aussi des territoires concurrents.
J'entends bien, il y a aussi des migrations économiques.
Oui, pas seulement économiques, il y a une spéculation sur le désordre.
Spéculation sur le désordre, Jacques de Decker. Il y en a qui ont choisi de partir, en tout cas, et de sortir et d'arrêter de spéculer sur ce désordre. C'est les Britanniques. Avec le Brexit, est-ce que là, on assiste au début de la dislocation de l'Europe? Pourquoi les Britanniques sont-ils partis? Est-ce que c'est aussi parce qu'ils avaient le sentiment de ne plus partager nos valeurs, ces valeurs européennes? Est-ce que c'est la fin aussi de la solidarité intra-européenne? Alors peut-être Marcus Gabriel.
Bon, j'espère que non, mais il y a aussi une solidarité au-delà de l'organisation institutionnelle de l'Union européenne. Donc l'Europe, c'est pas identique à l'Union européenne. Donc le Brexit, c'est un phénomène institutionnel et pas forcément phénomène des valeurs, pas forcément. Je pense que, par exemple, beaucoup d'Anglais partage mes valeurs ou les valeurs générales. Je pense pas que ça a changé. J'espère. Ça serait vraiment terrible. Donc on a vu un peu plus des problèmes de racisme, etc. à Londres, même après le Brexit. Ça serait un phénomène de détruire les valeurs.
Il nous reste quelques minutes. On va peut-être essayer quand même de comprendre et de définir avec vous quelles sont, du coup, ces valeurs universelles sur lesquelles l'Europe d'aujourd'hui peut s'appuyer pour essayer d'aller de l'avant, et aussi à quoi imputer le déclin de ce qu'on considérait jusqu'ici comme des valeurs européennes. Bon, Jacques de Decker.
Il y a une valeur évangélique par excellence qui est l'échange. Mais on a tout simplement confondu échange au sens évangélique avec le libre-échange, c'est-à-dire le commerce. C'est là qu'il y a une détérioration, hein, une adultération de valeurs. Il est certain qu'au démarrage, l'Europe est un projet pensé bien avant sa création, d'ailleurs, par quantité de gens, disons Victor Hugo, par exemple, bon, qui ont très très bien compris qu'on avait tout intérêt à s'allier. Le malheur a voulu, et je le répéterai jamais assez, que la traduction de ça dans le réel a commencé par un problème de marchandises. et qu'il fallait créer le cadre de conceptuel pour y intégrer le problème de marchandise. Vous savez, les commissaires européens à la culture, ils se sont succédés depuis Ripa Dipiana. Il y en a beaucoup qui se sont plaints eux-mêmes de leur manque total de moyens. Parce que la répartition est quand même au sein de la Commission elle-même. Et ça n'a jamais été la priorité du gouvernement européen.
Alors, Marcus Gabriel, on est justement aujourd'hui dans un climat de peur, de repli. On le voit à l'Est, bien sûr, mais aussi à l'Ouest de l'Europe. Vous qui êtes un spécialiste de la question du scepticisme, est-ce que ce scepticisme actuel peut être l'occasion de resserrer les liens pour vous ?
Absolument. Je pense que le problème maintenant, le vrai problème, la crise des valeurs, c'est le fantôme des valeurs judéo-chrétiennes. Ça n'existe pas. En réalité, c'est pour ça que nous avons eu la Révolution française et les Lumières pour finalement écraser l'infâme. Donc, il faut déconstruire le fantôme d'une Europe fondée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Tout au contraire, les valeurs de la Bible sont mise au génie, la mort, la guerre, etc. La Bible, c'est un livre assez brutal, beaucoup plus brutal en réalité que, par exemple, le Coran. Donc ça, c'est un problème. La fantaisie d'un ensemble des valeurs humanistes, etc. L'humanisme, c'est ça. C'est le droit de l'athéisme.
Donc votre Bible à vous, c'est quoi ? C'est les droits de l'homme. On va s'appuyer sur quel traité, quel texte, une déclaration des droits.
Oui, les droits de l'homme et la charte de l'Union européenne, donc les valeurs universelles.
Dont le symbole est aussi les droits de la femme, bien entendu.
Oui,
c'est là-dessus que ça s'achève.
C'est central.
Mathieu Croissando.
Mais plus de philosophie, plus de culture et tout ira bien. Je crains que ce soit un petit peu plus compliqué, mais en tout cas c'est un bon début.
Plus d'éducation. Reste que pour l'instant quand même l'heure, et pour citer votre confrère Yves Bertoncini de l'Institut Jacques Delors, et c'est pareil pour de nombreux dirigeants européens, rappelons qu'on est justement en plein Conseil de l'Europe aujourd'hui, le moyen de reconquérir l'estime des peuples et de relancer l'Union, c'est la sécurité commune. Est-ce qu'on va faire, je vous repose la question que je vous ai posée au cours de cette émission, est-ce qu'on va faire de la sécurité commune la seule valeur qui va réussir à nous lier demain ?
Aujourd'hui, elle est prioritaire, hein, ça c'est sûr.
Marcus Gabriel ?
Je ne vois pas ce problème, je ne pense pas que nous sommes tant menacés que nous croyons.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Mathieu Croissando. On rappelle que les débats continuent toute la journée ici au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles dans le cadre de ces journées de Bruxelles qui tendent à s'interroger sur la question européenne, la fin de l'Europe et après. Je ne sais pas si après ces deux jours, on aura réussi à enlever les points d'interrogation et peut-être parler, évoquer un renouveau. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. Merci à vous, messieurs. Merci à Perret Legras à la réalisation. Merci à nos amis techniciens de Radio France. Merci à Claire Maillot qui a préparé cette émission.